It, contrairement à là, c'est un A qui a viré pas mal, là, puis qui vire beaucoup aux États-Unis aussi. Celle-là est un peu plus,
mais
un peu plus difficile.
T'es à Québec, donc ça risque de faire un hit. Parce qu'il faut dire qu'à Québec, Metallica pourrait faire Agadou, puis ça pognerait, tu sais. C'est vrai.
Ouais.
Tu sais, il y a ça, par exemple.
Mais qu'est-ce qui fait que ce groupe-là a comme accroché à Québec, puis il y en a d'autres qui sont meilleurs, peut-être, tu sais, au niveau des gens qui connaissent ça comme toi, là, qui, eux autres, n'ont jamais été accrochés à Québec.
C'est quelque chose que je m'explique mal. Ouais. Vraiment, l'envergure de Metallica à Québec, on dirait que, je sais pas, c'est un son, ben, tu sais, parce que si on regarde, bon, Québec s'est influencé en plus par la musique british, tu sais, les Led Zeppelin, les Pink Floyd, tout ce qui vient de l'Angleterre. Aussi le punk, aussi dans les années 90. Mais oui, c'est sûr que Québec, c'est une ville où le métal est très fort. Mais c'est le groupe métal beaucoup plus extrême.
Ouais.
Tu vas avoir même du death metal qui va être très populaire. Tu vas avoir beaucoup de bands là, du metal core qui vont se mettre à gueuler. Tu as plein de bands comme ça à Québec. Tu as plus ça que des groupes hard rock, par exemple. Et Metallica arrive dans le décor. Et puis, bon, oui, ils faisaient partie du thrash metal des années 80, qui sont devenus très populaires. Et ils sont encore devenus encore plus populaires après le Black Album, Enter Sandman et ainsi de suite. Pourquoi qu'à Québec, c'est si fort que ça? J'ai jamais été capable de pouvoir l'expliquer.
Écoute, j'ai peut-être une piste, là, parce que je me souviens que lors d'un show, le chanteur l'avait expliqué, c'est-à-dire qu'au début de Metallica, alors qu'ils n'étaient pas nécessairement très connus, quand ils sont arrivés à Québec, ils ont eu pratiquement un accueil triomphal, là, puis ça les a fait carrément halluciner. C'est la raison pour laquelle ils se souviennent si bien de Québec. Puis à chaque fois qu'il y a un show de Metallica, c'est tout le temps bien plein. Souviens-toi quand on a fermé le Colisée Pepsi, puis après ça, on a décidé d'ouvrir le Centre Vidéotron, écoute, c'était Metallica un soir au Colisée Pepsi, puis le lendemain, c'était au Centre Vidéotron. Je veux dire, ça existe tout, ça. Ça existe juste chez nous. Là.
Oui, effectivement. Puis ça a été une idée, en plus, des gars de Metallica.
Ah oui?
C'est eux autres qui l'ont offert. Ben
okay,
oui,
je savais pas
qui
ça.
Offert, ouais. Ça vient même pas d'ici, là. C'est eux qui ont offert ça, qu'ils ont su que le Colisée fermait. Ben, ils ont dit, tabarouette, ça serait le fun qu'on fasse la fermeture puis qu'on fasse l'ouverture de l'autre Colisée.
T'sais, je me souviens quand sont venus au Festival de Québec, moi, je voulais y aller, mais là, on n'avait pas de gardienne. J'étais avec un bébé naissant. Fait que là, on s'est dit, griff, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis finalement, on y était, mais on est resté comme très loin. Puis on n'était même pas dans la zone spectacle là, du show de Metallica. On était complètement à l'extérieur. Tu sais, même pas besoin de macarons là, pour accéder au site. T'es complètement à l'extérieur, pratiquement dans la rue, c'est plein. Puis il y avait des gens qui étaient assis à terre et écoutaient Metallica. Là, le site était plein à ras-bord. Ah, c'est un band qui a marqué l'histoire de Québec. Puis qui est marqué aussi par Québec.
C'est une religion à Québec.
Ce que je trouve bien, c'est qu'ils se souviennent de nous autres.
Oui, ben c'est sûr. T'sais, ils savent, eux autres, là, y a un signal, il y a des signaux qu'ils reçoivent de plusieurs endroits.
Ouais.
Et même à plus petite échelle, je pourrais dire, bon, sûrement personne ne connaît ça, Head Guy, qui est un groupe allemand qui font du métal. Et eux, ils avaient fait, ils étaient quand même populaires, mais pas en Amérique.
Okay.
Et puis, eux autres, c'était en 2002. À un moment donné, c'est qu'ils font tous les continents. Puis eux autres, leur trip, c'était de dire, ben, on aimerait ça faire une tournée mondiale, mais où en Amérique on devrait aller? On devrait aller faire un show en Amérique, tout simplement, puis où on devrait aller? Eux autres se sont fiés sur leur site Internet. Bon, OK, parfait, sur les connexions, tu sais, les gens qui vont sur leur site.
Ouais.
Puis ils sont aperçus dans les pays que, tabarouette, il y a plein de monde de Québec qui vont sur notre site. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de Montréal, pas beaucoup de le reste de l'Amérique, mais à Québec, il y a beaucoup de monde qui viennent sur notre site. Bon, ben attends, on va aller faire à Québec, on va aller faire un show à Québec et on va pouvoir dire on a fait une tournée mondiale. Tu sais, c'était pour cette trip-là, les gars, en fait. Là.
Ouais.
Et finalement, ils ne trouvaient pas de place. Personne n'était là. Vous êtes gay, on vous connaît pas, puis tout ça. Et grâce au groupe Forgotten Tales, qui est un groupe power metal de Québec, de Limoilou, qui était quand même un peu connu en Europe, ils ont réussi à aller faire un concert. Ils ne trouvaient pas de place du tout. Au Centre François Charon.
OK.
Ils sont allés faire un show, là.
Ça devait être bien plein.
Ah ouais, il y avait beaucoup de monde à part de ça. Et puis, finalement, ils ont fait le show, puis les gens ont trippé, et puis Forgotten Tales, ça a été toute une soirée. Et finalement, ben c'est ça, tout le monde était content, puis les autres, ils ont pu dire, bon, ben on a fait une tournée mondiale, mais ils cherchaient un peu à savoir où il y a un plus gros signal, où ce qu'on pourrait aller, tu sais, sans être pogné d'arriver à une place, puis personne ne les connaît. Là, ils se disent, bon, on a un petit fanbase à Québec, On va aller là parce que c'est là où que le signal est plus gros.
Okay.
Donc, un peu pareil pour Metallica, qui eux, ben, ils le voient dans les ventes d'albums. Quand ils ont sorti le film, ben ouais, quand ils ont sorti le film il y a quelques années, là, nous autres, à IMAX, là, c'était aussi fort qu'à San Francisco. Là, ouais. C'était la seule place où il y avait autant de monde. Okay. Là,
pourquoi on est plus le style musique poêle, nous autres, à Québec, versus peut-être d'autres endroits dans le monde? Parce qu'on est, je sais pas.
Ça... On est influencé par la musique british. Ça, c'est vraiment notre influence british qu'on a à Québec. Contrairement à Montréal, oui, ça, tu vas avoir beaucoup de rock, beaucoup de poil, justement, mais ils sont très, très, très américanisés comme musique. C'est très, très, très musique américaine. Ils vont très, très s'américaniser, un peu comme Toronto. Tandis qu'à Québec, on a conservé le côté british. C'est ici que des groupes comme Pink Floyd se sont servis de Québec comme plaque tournante en
Sex
Amérique.
Sex Pistols, ça se peut-tu?
Oui, les Sex Pistols.
J'ai entendu souvent ça à Québec.
Oui, puis même la vague punk des années 90, là, ça a été pareil. Là.
Ouais.
Et la même chose, Genesis, leur premier concert en Amérique, c'était ici au Grand Théâtre. Là, les plus vieux qui sont à l'écoute vont dire « Ouais, j'étais là! » Pink Floyd, ça a été pareil. On a même des concerts de Pink Floyd en 70 là, au Colisée. Là, okay.
Fait que ce serait vraiment l'influence britannique.
Oui, c'est vraiment l'influence britannique. Okay. Britannique qui est british, qui fait qu'on est un endroit un petit peu plus rock. On n'est pas très... Puis même, le meilleur beat, c'est Michel Brazo à l'époque, lorsqu'il produisait des concerts à Québec.
Lui, il en a vécu des affaires.
Ah ben oui. Puis lui, il savait, lui, il connaissait vraiment l'ADN, comme dirait Clotaire, l'ADN de Québec au niveau de la musique. Donc, c'était le meilleur gars au monde qui pouvait mieux le savoir. Et tu sais, t'as pas eu de Madonna à Québec, parce qu'il savait que si Madonna venait au Colisée en 86... Ça n'aurait pas fonctionné comme ça fonctionnerait, tu sais, avec qu'est-ce que ça coûterait et ainsi de suite. Donc, c'était préférable de les envoyer, de l'envoyer au forum à l'époque. Et la même chose pour les artistes pop. Donc, c'est la raison pour laquelle tu as eu plein de musique rock, surtout dans les années 80, qui venaient à Québec. Et aujourd'hui, ben, c'est dirigé par des gens qui sont à Toronto, qui n'en ont aucune idée de la culture. Et c'est un gars comme Brazo, ça manque vraiment. C'est pas normal que Slayer, qui est un groupe qui a toujours été très populaire à Québec, pas tellement populaire à Montréal, on dit, bon, ben Slayer, ils ont un concert à faire au Québec, tiens, on les envoie à Laval, tiens, dans l'aréna des croquettes. Là,
des rockets.
Ouais, des croquettes de Laval.
Rocket de Laval. Mais tu sais, Brazo, est-ce que tu l'as connu, toi, Brazo? Tu as-tu déjà parlé?
Oh, oui, souvent. Il est...
Moi, j'ai eu la chance d'y parler une fois en entrevue, puis les autres fois où j'essayais de l'avoir, là, ben, sans trop rentrer dans les détails, il luttait contre ses propres démons. Tiens, on va dire ça comme ça. Mais c'est un gars qui semblait être extrêmement stressé alors qu'il avait tout un talent de programmeur.
Oh, oui, puis c'était vraiment le king à Québec. Là, ouais. C'est fou, là, tu sais, ce gars-là.
On sait-tu comment il s'est monté, lui?
Ben, ça a été surtout avec Donald Kendall, à l'époque, dans les années 70, qu'eux, ils étaient à Montréal. Donc, ça prenait des producteurs locaux à Québec. C'est comme lui qui a comme pris la pôle. Quand CFLS organisait des concerts comme Donna Summer dans les années 70 ou Frank Zappa.
Il était là.
Ben, on appelait, on disait, bon, ben, tu sais, il y a lui qui est pas pire un peu, ben, on va le prendre, tu sais. Puis c'est comme ça qu'il s'est fait un nom, éventuellement. Donc, c'est devenu une légende à Québec parce que là, c'était, anciennement, ça marchait comme ça. C'était des producteurs locaux qui organisaient ça. Donc, tu avais un gérant de tournée, puis là, bon, ben, parfait, à Québec, on va faire affaire avec Brazo. À Montréal, ça va être Donald que Donald, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ben là, tu arrives avec Live Nation, puis eux autres, tout
c'est du monde qui ne connaissent pas le marché.
C'est ça, sont à Toronto ou à New York, et là, tout est centralisé. Puis, bon, OK, tu as combien de dates pour le Canada? OK, tu as 6 dates pour le Canada? OK, bon, ben. On va partager ça. Puis, tu sais, c'est comme, ben justement, tu sais, Kiss qui a annoncé ce matin leur tournée au niveau canadien.
Oui, on va en parler d'ailleurs.
Oui, effectivement. Donc, tu sais, on est arrivé avec des dates au Canada. Et là, on s'est lâché douce pour le Canada. C'est la raison pour laquelle tu as Winnipeg, tu as Ottawa et Québec. Parce que normalement, si tu avais eu plus de villes américaines et moins de villes au Canada, on serait contenté tout simplement de Vancouver, Toronto, Montréal.
That's it.
Mais là, on a ouvert un petit peu plus parce qu'il y a moins de villes américaines.
OK. Mais il me semble que c'était mieux comme on fonctionnait avant. Oui. Un gars comme Brazo connaissait son marché, connaissait les gens de Québec, savait qu'est-ce qui pouvait fonctionner, qu'est-ce qui fonctionnerait
c'est
peut-être
ça.
Un peu moins bien. Il pouvait participer avec les stations de radio et les stations de télé qu'on avait à Québec à diffuser puis à promouvoir ces événements-là. Là, c'est des grosses têtes qui sont dans des bureaux.
C'est exactement ça. Puis un gars comme Brazo, lui, il savait que si tu fais venir cet artiste-là à Québec, ça pognera pas. Tu sais, c'est ça, là, la différence. Et t'as quel artiste qui va venir à Québec? Oui, ça va fonctionner. Il était capable de c'est pour ça que, comme je disais tantôt, l'ADN, entre guillemets, il l'avait, puis il savait, puis il connaissait la mentalité de Québec, là, tu sais. Et ça, ben un producteur local, c'est très important qu'il soit au courant de un, mais de deux, il l'avait, puis il était hot, là, tu sais. Ouais.
Lui, c'était-tu... Écoute, je vais te faire un aparté après, là, pour te montrer des fois comment les souvenirs peuvent se mélanger quand on est en
il y a toujours un compte de jeans.
Mais oui, je me souviens de ça. Mais c'était-tu lui qui était responsable de la soirée où il y a un gars qui est monté comme en haut puis il s'est crissé en bas?
Ça, c'est pendant un concert d'Iron Maiden.
C'est un concert d'Iron Maiden.
C'est une station de radio à Québec.
Ouais.
Et puis, eux autres organisaient, ils présentaient le concert. Et pour une raison que j'ignore, c'était le concert, ça c'est le 27 novembre 1984, Twisted Sister faisait la première partie. Et c'est durant le concert d'Iron Maiden. Ce qui est arrivé, c'est que la station de radio faisait une promotion avec des ballons puis tout ça pour écrire leur chiffre et ainsi de suite. Et puis, c'est ça. Puis là, ben, tu sais comment c'est fait, le vieux Colisée? Tu sais, t'as la passerelle qui traverse pour aller sur la galerie de presse. Ouais. Donc, habituellement, il y avait des agents de sécurité qui étaient là. Mais pour une raison qu'on ne connaît pas, il n'y avait pas d'agents de sécurité. Donc, il y a eu deux gars qui étaient chauds d'ail, qui venaient du Saguenay. Et puis, eux autres, ben, ils ont vu la ballonne, puis ils voulaient pogner la ballonne. « Attends un peu, m'a tiré. » Puis là, il y en a un qui est flux, qui est tombé en bas. Il est mort sur le coup. Et puis, là, ce qui est arrivé... La police, bon, on appelle la police et ainsi de suite, la police de Québec. Là, on était rendu au rappel.
Okay.
Donc, il restait une ou deux chansons à la toute fin. Bien sûr, quand on va dans un show, il y a un rappel, ben c'est quoi? C'est les deux meilleures chansons les plus populaires qu'on garde pour la fin. Uh-huh. T'sais? Là, la police de Québec, le responsable, il dit bon, ben, il dit là, ouvrez les lumières, puis on arrête le show tout de suite. Brazo s'en mêle, il dit écoute. Il dit, si on arrête le show là, ça il n'y aura pas juste un mort, non, il va en avoir plusieurs.
Exact.
Donc, il s'est organisé avec la police de Québec de faire un petit secteur d'un périmètre de sécurité en attendant que les deux dernières chansons soient terminées. Puis après ça, ils allaient faire leur travail. J'étais à ce concert-là, je m'en suis jamais aperçu.
Tu t'es jamais aperçu que c'était passé de quoi?
Je l'ai su le lendemain. Il y a un gars qui est mort. Hein? J'étais là hier, moi.
C'est en quelle année? Hein?
Vers 84.
84,
ouais,
OK.
Ouais. J'avais pas de poils d'en face. Okay.
Moi, c'est sûr et certain que j'étais pas à ce spectacle-là. J'étais beaucoup trop jeune, mais on m'avait raconté ce qui s'était passé. Puis quelques jours, quelques heures plus tard, les Nordiques de Québec jouaient leur match au Colisée. Puis dans ma tête d'enfant, là, j'ai comme mêlé les deux histoires. Puis on m'avait dit qu'effectivement, il y avait un périmètre qui avait été mis en place. Puis dans ma tête d'enfant, après un bout avant que je me rende compte que ça n'avait pas de bon sens, là, mais on avait mis un périmètre sur la patinoire, puis que les joueurs des Nordiques, puis l'autre équipe contre qui ils jouaient, ils pouvaient pas y aller maintenant.
Ah, OK.
C'est fucké, hein? Comment les souvenirs d'enfant, c'était ça. C'était comme ça ma conception. Il y a quelqu'un qui est tombé des passerelles, il est tombé en bas. Ben là, les Nordiques pouvaient pas aller là parce que c'était brisé, tu sais.
Ah, c'est ça.
Mais
écoute,
j'avais même pas 4 ans, fait que tu comprends que c'était un peu...
Mais en même temps, Michel Brazeau, ce qu'il craignait, c'est que deux, trois ans auparavant, c'est qu'il y avait eu une émeute à Québec lors d'un concert des Deep Purple.
OK.
C'est que Deep Purple était séparé et c'était tout simplement mort à un moment donné, avant qu'il se reforme en 86 avec Perfect Strangers. Sauf que là, on annonce Deep Purple à Québec. Bien sûr, on n'a pas Internet, on n'a rien de ça. On entend « Ah ouais, Deep Purple viennent à Québec et hein, le groupe se reforme, c'est donc bien fun » et ainsi de suite. Sauf, puis là, en première partie, c'était Corbeau. Sauf que là, on commence à s'apercevoir dans la foule que les gars... C'est pas pantoute des Purple. Oui, il y a le chanteur qui était le tout premier chanteur qu'il y avait avant Ian Gillan. C'était dans les années 60. Celui qui chante la pièce Hush, c'était lui qui était là. C'était le seul vrai membre ex-Deep Purple qu'il y avait. Les autres, c'était tous des no-names.
Ouais.
Donc, les gens qui ont payé le prix, qui s'attendaient à Deep Purple, qui étaient en beau joie le vert. Et ce que des gars de Corbeau, Molière, en tout cas, peu importe, des membres de Corbeau disaient, ils trouvaient ça bizarre, lui, que les gars de Deep Purple lui empruntaient sa guitare. Il dit, ça dérange juste, je peux-tu emprunter ta guitare pour faire le concert? Puis, ils trouvaient ça bizarre. Ils disaient, pourquoi un gars de Deep Purple me demande ça, là, tu sais? Il trouvait ça louche un peu. Jean Miller, c'est ça, c'est son nom. Et puis, il trouvait ça louche un peu. Et c'est ça. Puis, ça a causé une émeute à Québec. Et puis là, ben c'est ça. Puis lui, ben Michel Brazeau, il avait encore frais en mémoire cette histoire-là. Puis là, il s'est dit, non, si on fait ça à Iron Maiden, au Colisée, il y a 12 000 personnes, Regarde, là, il reste The Number of the Beast, puis il reste Run to the Hill. Les deux gros hits du groupe ont fini le concert. Et heureusement, parce que oui, il avait raison. Il n'y aurait pas eu juste un mort.
Eh hey boy, quelle histoire. Ouais. Hey, ça nous a permis de parler de Michel Brazo pendant un certain temps. Ben oui. Tu nous parlais de Kiss. Effectivement, on va parler de l'histoire de Kiss dans les prochaines minutes. Mais juste avant, à ma gauche, il y a comme Denis qui était là tantôt, là, puis qui a décidé d'amener l'album de Pink Floyd. Pourquoi on parle autant de Pink Floyd aujourd'hui?
C'est les 50 ans du groupe. Les 50 ans de la sortie de Dark Side of the Moon.
De l'album,
oui. Et puis oui, l'album qui est sorti. Ça va être l'album qui va faire que les gars vont devenir millionnaires, qui vont se payer des chalets, des grosses maisons et ainsi de suite, qui vont perdre beaucoup d'argent après. Et ça sera The Wall qui va sauver le groupe. Mais c'est cet album-là qui va vraiment faire que Pink Floyd va devenir ce qu'est Pink Floyd aujourd'hui. Oui, le groupe était quand même un petit peu connu avant avec l'album Madball et ainsi de suite. Mais sauf que c'est l'album où que ça va être là, un mythe. Là. Ça va passer au-dessus de deux... ça va passer au-dessus de 200 semaines dans le top 200. Ça a été...
Ça a battu 800 tous les records.
Semaines, 800 semaines plutôt, dans le top 200.
800 semaines?
Oui, 800 semaines. Et puis, c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que l'album n'aura même pas été numéro 1 en Angleterre, aura été numéro 1 aux États-Unis. C'est ça. Puis ça a le record de longévité là, dans le top 200.
Presque 15 années et demie.
Ouais, c'est ça. Bon, ouais, il faut aller dans les années 80, là, t'sais, jusqu'à temps que l'album soit sorti. Et puis, c'est ça, c'est un album où, qui va devenir un point tournant. Et puis, il y a toutes sortes de choses qu'on peut raconter là-dessus. T'sais, ça a été aussi le tout premier album stéréo de l'histoire de la musique. Avant cet album-là,
c'était mono.
C'était tout mono. Tous les albums, même Sgt. Pepper des Beatles, qui ont fait en 67. C'est le génie en arrière de ça, c'est l'ingénieur de son, Alan Parsons, qui a produit l'album. Et c'est lui qui a fait l'expérience d'un album stéréo. Et c'était la première fois qu'on avait un album stéréo dans la musique, un 33 tours.
Okay. Puis as-tu l'impression que ça a joué?
Ah, ben oui, ben oui, même le son aujourd'hui, là, tu sais. Tu vois, là, tu sais, la différence. Parce qu'à l'époque, tu prenais un disque, que ce soit un 33 tours, 45 tours, peu importe. C'est que là, tu avais tes deux caisses de son, tu avais la musique d'un côté, puis le chanteur ou la chanteuse de l'autre côté. Et souvent, ben, tu sais, si, mettons, tu avais une caisse qui sautait, ben là, il t'en manquait un bout, là, tu sais. Tandis que ton album stéréo était tout concentré, là. Puis là, tu pouvais jouer avec les sons, là, qu'à un moment donné, t'as des sons, puis là, t'entends un avion, ben, tu vas entendre l'avion à gauche, puis qui va continuer à droite, là,
dans
ta caisse de droite, là. Donc, c'était la première fois, c'est une grosse évolution dans l'histoire de la musique. Et le tout premier album stéréo, ah, ben, il y a tellement de choses qu'on peut raconter là-dessus.
Puis
là,
est-ce que ce band-là, là, est-ce que tu me dis, bon, il était peut-être un peu connu avant, mais c'est vraiment cet album-là qui a fait en sorte qu'ils sont devenus multimillionnaires très rapidement. Est-ce que il y avait d'autres groupes qui étaient semblables à Pink Floyd ou ça sortait complètement de l'ordinaire, cette nouvelle
musique-là?
Dans
la musique progressive, oui, il y avait plusieurs groupes, mais Pink Floyd ont toujours été uniques. Peut-être parce qu'à cause des racines de Syd Barrett, le gars, lui, il trippait sur les extraterrestres et ainsi de suite. c'est ça, tout ce qui est relié à l'astronomie et ainsi de suite. T'sais. Donc, il y avait un petit côté qui était différent, un son qui était différent de Pink Floyd, parce que tu pouvais prendre Jethro Tull, malgré que les groupes progressifs, ça se ressemble beaucoup. OK, à la base, tu sais, Yes qui vont ajouter beaucoup de claviers, Jethro Tull avec la flûte qu'il va avoir. Tu sais, mais chaque groupe, on dirait, ont chacun leur identité dans la musique progressive et c'est ça qui fait la beauté de ce style de musique-là. Mais on dirait que Pink Floyd était un petit peu à part de tous ces groupes-là. Il avait un petit quelque chose et il y avait du talent, là. Tu sais, Roger Waters, c'était une méchante bombe. Peut-être pas l'homme, là, mais le musicien, c'est tout un cerveau, là, tu sais. Avec David Gilmour, qui, lui, avait pris la place de Syd Barrett, justement.
Ouais.
Et c'est ça. Puis ça reste que, tu sais, des gars comme Richard Wright et Nick Mason, c'était des gars qui avaient du talent, là, tu sais. Donc, c'est un groupe qui était immensément talentueux, qui ont réussi réussi à faire leur place. Et puis, au début, c'était bien, bien simple aussi comme musique. Tu sais, bon, ils sortaient des affaires en online, c'était pour rire d'un gars qui restait dans leur coin parce que c'était un gars dans ce temps-là, ben, il fallait pas le dire que tu étais travesti. Donc, le gars, ben, il pouvait pas acheter du linge. Un homme allait pas acheter de linge, première des choses. Alors, imagine, aller acheter du linge pour femme. Donc, qu'est-ce que M. Arnold Lane faisait? C'est qu'il allait dans ou les maisons, puis il voyait des cordes à linge dans les cours, puis il traversait, puis il voyait du linge, puis il volait du linge. Tu sais, maintenant, les gars l'ont pogné.
J'imagine que quand.
Une chanson sur lui.
Quand on voyait Hulk à la télé quand on était jeune, il doit s'être inspiré, là, parce que lui, c'est ce qu'il faisait, Hulk. Là. Une fois qu'il revenait un être humain, là, il volait du linge chez cordes à linge. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait de l'argent à ses cordes à linge.
Ah, je m'en souviens pas de ça. Non.
Il prenait le linge, puis il mettait avec les épingles à linge en bois. Là, ouais. Il mettait des dollars américains.
Ah, ouais. Wow. Ah, j'ai jamais, je me souviens plus de ça.
Ils ont sûrement pris ça. Ah. Parce que, tu sais, aujourd'hui, tu sais, des fois, je regarde Spotify, puis je regarde, j'essaie de découvrir d'autres artistes, puis je me dis, tu sais, être une vedette internationale, là, c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a énormément de gens qui veulent arriver au sommet. Puis là, tu entends des gens, puis tu regardes le nombre d'écoutes. Des fois, c'est moins de 1000 écoutes, mais les gens, c'est des exceptionnels. Là. Puis la musique est super bonne, puis ils chantent super bien. Tu te dis, mais comment ça? Eux autres réussissent pas à percer. Versus d'autres qui ont peut-être moins de talent, mais au niveau commercial, sont peut-être plus commercialisables, mettons. Là.
Le charisme, première des choses. Parce que tu vas prendre un guitariste qui va avoir fait le conservatoire, puis qui va être... Il va connaître les notes à la perfection.
Ça un virtuose.
Oui, effectivement. Ouais. Mais ce gars-là, il sera jamais connu, il percera jamais. Puis... Mais tu vas avoir un gars qui n'a pas de talent, puis un gars comme Kevin Parent, par exemple, puis il va pogner. Parce qu'il a du charisme, tu sais.
Ben, je pense que c'est ça. Tu sais, lui, il a jamais changé son accent. Là. Je pense que son accent est extrêmement payant.
Tu sais, c'est exactement ça. Parce que tu sais, tu regardes ça, puis tu te dis, voyons, mais comment ça se fait que ce gars-là pogne, puis lui, il pogne pas? C'est parce que Kevin Parent, je donne lui comme exemple, là, il a un charisme que l'autre n'a pas.
Ouais.
Le gars, ben, peut-être, il est plus introverti, puis il est trop intellectuel dans sa musique, okay. Il est trop technique, et puis là, ben, tu sais, là, tu te perds, et puis...
Il veut pas se faire changer.
C'est ça, tu sais. Puis des fois, il y en a qui ont une tête de cochon, ils disent « Non, non, c'est le monde qui devrait me comprendre et non moi comprendre ce que les gens veulent. »
OK, je comprends.
Souvent, ça va être comme ça. Puis là, ils veulent pas changer leur style. Ou, tu sais, souvent, ça sera comme ça. Ou, tu vas arriver, puis un gars comme Kevin Parent, justement, il va avoir un accent, puis ça va fonctionner. Les gens vont trouver ça bien, bien cute. Et puis, comme en France, si tu vas en France, qui pogne le plus en France? Ben longtemps, c'était Robert Charlebois.
Oui.
Parce que il chantait le québécois, lui. Il avait la langue du Québec. Les Français aimaient ça. C'était pas entendre Marimé ou peu importe, là, ou mon oncle Serge aussi. Il y a eu beaucoup de succès. Il y a beaucoup de succès en France, mon oncle Serge. Pourquoi? Parce qu'il parle le québécois. C'est ça qui fait la différence.
OK. Fait que toi, c'est donc, vraiment le charisme.
Ah, il y a le charisme qui joue pour beaucoup, ça, c'est sûr.
OK. Puis peut-être le fait qu'il veut pas se faire changer. Okay. Parce que
oui, il y en a qui.
Écoute, j'ai posé une question super conne. Moi, je fais des entrevues avec des artistes. Des fois, j'ai de la misère parce que je comprends pas leur monde, je comprends pas leur univers. Puis, tu sais, j'ai plein de respect pour eux autres, mais je sais pas quoi leur dire.
Tu sais,
j'aime bien mieux. Ben, c'est ça. J'aime bien mieux confier ça à des gars comme toi, ou comme Denis Gravel, ou tu sais, comme Reg Laplanche, qui est avec nous autres le matin, qui se connaissent vraiment, puis qu'eux autres sont capables, tu sais, de rentrer comme dans forme de transe avec l'artiste, puis ils communiquent bien. Tu sais, moi, j'ai de la misère. Mais, tu sais, Steve Hill, là, on s'entend-tu que c'est un des meilleurs qu'on a au Québec, là, au niveau de la guitare? Moi, quand je l'ai vu en spectacle, là, c'était à Lac Mégantic, ça s'appelait Lac en fête, je pense. Il était tout seul, puis il s'est transformé en homme orchestre. Là. Je me suis dit, ce gars-là, c'est une superstar. Ouais. Ce gars-là pourrait faire le tour du monde avec le talent qu'il a. C'est un virtuose, il a une si belle voix, il joue de tous les instruments. Puis sa musique est bonne, là. Tout le monde autour de moi tripait à écouter Steve Hill. Fait que quand j'ai eu Steve Hill en entrevue, je me suis dit, pourquoi toi, ça n'a jamais marché, ça? Pourquoi t'es pas devenu une superstar? T'sais? Pourquoi on n'entend pas parler de toi aux États-Unis
que
alors qu'il a...
pas de l'être.
Ben j'ai comme compris que lui, on lui a demandé de changer certains trucs, puis ça il tentait pas. Puis il dit, garde, je suis mieux d'être une superstar dans ma petite localité que d'être un Austin nobody aux États-Unis, mettons.
C'est ça, exactement. Exactement. Sinon, t'aurais pas de rapper, t'aurais pas de métalleux, tout le monde ferait de la musique pour plaire à tout le monde. Sinon. Ouais. Tu sais, tu vas prendre, la semaine passée, il y avait Visions of Atlantis, la fille Clémentine Delaunay, tu sais, tu la regardes, cette fille-là, elle a vraiment l'air d'une princesse, là, vraiment, là, tu sais, une fille de high class qui fait de la musique classique, puis elle a toute une voix, puis...
Ouais.
Puis là, tu étais là, mais comment ça se fait qu'une fille comme ça, elle devrait être plus dans un style beaucoup plus pop, beaucoup plus populaire que... être dans un groupe métal underground puis être obligé de jouer à la sans rien enlever, mais une petite salle comme la source marinière, ouais. Là, c'est tout petit, là, on s'entend que c'est pas le grand théâtre, là, le son est très bon en passant. Et bon, elle s'en va jouer là, elle préfère ça que être une chanteuse pop qui pourrait, elle aurait le style
être tout, planétaire.
Elle a la voix, puis ouais. Ben c'est ça. Mais sauf qu'elle préfère rester elle-même. Et justement, comme Steve Hill.
Mais moi, j'ai plein de respect
le
pour
but,
ça.
Le juste... but, c'est. Quête arrive, puis. Tu sais, c'est pas comme au hockey, par exemple. Le jeune qui va jouer de la musique, c'est le plaisir. Le plaisir de créer, le plaisir de trouver quelque chose, trouver un son, puis s'amuser. Et tu penses pas à. Ton T4 d'impôt. Tandis que si tu joues au hockey quand t'es jeune, puis là, on commence à pousser, puis là, tu t'en viens, tu changes de niveau, là, on commence à dire, hey, tu peux faire la Ligue nationale, toi, là, tu sais. Là, on va te prendre plus au sérieux, puis là, tu vas pousser en fonction de la Ligue nationale. Ouais. Tandis que lorsque t'es un musicien, moi, j'ai mon cousin, là, Dominique, là, c'est tout un guitariste, il est incroyable dans le style Steve Hill, là. Puis le gars, il est bouché, tu sais, il gagne sa vie bien comme il faut, mais il a jamais voulu. Il aurait pu s'en aller, justement, entre guillemets, se prostituer. Mais il n'a jamais voulu le faire. Lui, il préfère garder son style à lui puis triper avec sa musique comme qu'il aime, tout simplement. Ouais. Et puis,
mais
c'est
pour
des
gens,
choix.
Pour les gens qui sont à l'extérieur, comme moi, quand j'ai vu Steve Hill en performance, je n'avais entendu parler, on me disait que c'était un excellent guitariste. Tout ça, mais quand je l'ai vu en performance, je me disais, ce gars-là, il est meilleur que bien des artistes américains qui nous sont présentés. Là. Puis quand j'y ai jasé... J'ai posé cette question niaiseuse-là. T'sais, qu'est-ce qu'il fait que Steve Hill, il est pas planétaire? Puis j'ai compris au travers ce qu'il me disait que lui, changer, c'était pas vraiment son genre. Puis il était très heureux comme ça se passait. Ça. Le gars est à Trois-Rivières, il vit sa petite vie, puis il fait ses shows une fois de temps en temps. De temps en temps, il va faire des tours en Europe et tout ça, parce qu'il est appelé à travailler dans différents festivals. Mais c'est ça, pour moi qui ne connaissais pas nécessairement ça, il a fallu que je rencontre Steve Hill pour le comprendre. Mais je regardais un documentaire sur Lady Gaga. Je ne sais pas si tu l'as vu, le documentaire. Là, mais tu sais, cette femme-là, c'est une virtuose, la musique. Là. Mm-hmm. Puis quand elle jouait du piano, avec sa voix, c'était exceptionnel. Mais c'était exceptionnel comme les autres. Puis à un moment donné, elle a rencontré une fille, une designer, qui disait un peu, là, t'as tout, là. T'as la voix, t'as le talent. T'es musicienne, on va juste travailler un peu sur ton personnage, puis elle est devenue Lady Gaga, et là, ça l'a explosé. Bien sûr que sa musique a changé un peu, c'est devenu un peu plus populaire, puis très, très rythmé, mais elle est obligée de changer son style, donc de se prostituer, comme tu as dit tantôt. Là.
Ah ouais.
Mais elle, dans son cas, ça a été extrêmement payant.
Ben ouais. Ça a été son but aussi. Son but était de se faire de l'argent,
ouais.
Contrairement à un gars comme Steve Hill. Meilleur exemple aussi, Lady Gaga, on peut passer aussi à Linda Lemay ici. Linda Lemay qui fait du folk, de la musique très recherchée. T'écoutes les paroles de Linda Lemay, c'est incroyable. Là. C'est fou la musique qu'elle compose. Là. Et ce qui est dommage, c'est qu'ici, non, ça ne tire pas du tout. Ça a déjà tiré à un moment donné. Mais si tu t'en vas en Belgique, par exemple, là, c'est une superstar. Là.
Ah ouais.
Les Belges trippent sur Linda Lemay. Moi, j'ose avec des Belges. Puis, des fois, c'est Linda Lemay, puis après ça, ils me parlent de Céline. c'est vraiment big. Là,
hey, c'est
oh,
weird,
ouais, très populaire. Ouais, puis parce que, justement, comme tantôt, elle a le langage québécois. Donc, les Belges, eux autres, ils ont été sous le charme de Linda Lemay. Puis, tu t'en vas là-bas, puis ils connaissent toutes Linda Lemay. Ah,
c'est
comme il faut. Elle a encore, là, quelques semaines, elle est allée en Belgique faire une tournée là-bas, puis elle est allée faire des shows.
Ouais, je pense pas que c'est la dernière fois que tu es venu, mais je pense que c'était une des premières fois où tu es venu ici, à Boulevard. On avait parlé de Steve Barakat.
Oui,
qui est
ben
un pianiste. Je veux dire, ce gars-là en Chine, il peut pas se promener. Là. Ce gars-là en Chine, c'est Elvis Presley, là. Donc, il ne peut pas se promener parce que tout le monde le reconnaît. Ici, il se promène au travers du vieux Québec, main dans la main avec sa blonde, puis les gens vont le regarder, vont dire, mais ça, il me dit quelque chose. Mais quand il est là-bas...
Même à ça, même moi, le premier, je le croiserais au IGA dans une allée. C'est pas ça, je le reconnaîtrais.
Non, c'est ça. Ben, moi, j'avais des amis en commun, puis j'ai vu que c'était Steve Barakat. Puis là, quand j'ai vu qu'en Chine, ça fonctionnait tempête, ces affaires, je sais pas si ça fonctionne encore, mais il y avait eu une visite aussi d'un groupe Groupe allemand, ça se peut-tu? Rammstein. Rammstein. Puis le chanteur de Rammstein tripait sur Steve Hill, puis il s'est ramassé chez Steve Hill à jouer. Steve Hill était au piano, puis lui, il chantait.
Ouais.
Moi, je tuerais pour entendre ce qui s'est, puis, ce qui s'est fait là dans cette pièce-là. Là.
C'est ça, c'est ça. Puis le chanteur de Rammstein, il était honoré de faire ça avec. t'sais, c'est ça, là. Tu dis, il me semble que ça serait le contraire, mais non. C'est ça.
Hey, à la tête, j'ai pas eu un méchant deux minutes. Moi, ben là, je dirais pas où je m'entraîne, là, parce que je veux pas le mettre dans l'embarras. Mais je m'entraîne dans un gym pas loin d'ici, OK? Mm-hmm. Puis il y a un monsieur que j'enlignais, puis je disais, si, me dites quoi ce gars-là? Jusqu'à temps que je tombe sur. C'était le comédien qui faisait Vas-y. Tu sais, le bonhomme bleu, à un moment donné, qu'ils ont choisi, là, il avait peinture en bleu, c'était un comédien, puis il faisait Vas-y pour promouvoir les saines habitudes de vie, là.
Ah, non.
OK, ça... fait que moi, je l'ai reconnu sous son costume de Vas-y. Avec sa face, là, je regardais son visage, sa mâchoire, son nez. Je me suis dit, c'est Vas-y, ça. Ah ouais, c'est lui. Puis là, matin, je l'ai recroisé. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai réalisé? Ah, si tu vas rire de moi, là. Mais c'est Arthur l'aventurier.
Ah ouais?
Ouais.
Ah.
Fait que le gars, il a joué divers personnages. Là. Lui, il avait vendu son personnage Vas-y à une entreprise qui l'utilisait par la suite. Mais je l'ai reconnu en bleu, en schtroumpf. Là.
Oh, ouais.
Puis un matin, je me disais, ah, c'est Arthur l'aventurier. Ça. Mais lui, ah, auprès ouais. des enfants, je veux dire, il passe pas inaperçu. Là.
Ah ben c'est sûr.
Mais au gym où je m'entraîne, il n'y a personne qui le connaît. Là.
C'est ça. C'est ça. Oh ouais, c'est. Puis c'est ça qui fait la beauté de tout ça aussi. Là, ouais. C'est ça qui fait la beauté. Donc, tu sais, c'est chacun leurs ambitions.
Ouais.
Et puis, c'est ça. Il y en a qui cherchent pas du tout à se faire connaître, à devenir des stars. Et heureusement, parce que, comme je te disais tantôt, tout le monde ferait juste du rock et du pop.
Mm.
Et c'est ça, tu sais, t'aurais plus de rap, t'aurais plus de metal, t'aurais plus de country, t'aurais plus rien.
Mais t'as vu une autre affaire aussi, là, tu me fais flasher sur plein de choses. Je regarde une femme, je la trouve, on est en train de souper, puis je la trouve exceptionnelle, d'une beauté exceptionnelle, puis ça me fait penser à quelqu'un, mm-hmm. mais j'étais pas capable, elle avait des petits yeux en amande et tout ça, puis là, je me suis dit, mais c'est pas Monica Bellucci, là, c'est clair que c'est pas elle, mais tu sais, je vois, il parle anglais, puis tout ça, puis là, d'un coup, je regarde son mari a de l'air sympathique, son mari, il me dit de quoi aussi, tu sais, on est dans les murs du Vieux-Québec, là, en bas, sur le bord du Vieux-Port. Puis je m'en vais aux toilettes, je reviens. Puis là, j'ai un contact des yeux avec elle. Je me suis dit, c'est la femme à Michael Douglas. C'était, comment elle s'appelle? Je perds son nom. Mais Michael Douglas, c'est qui?
Ah ouais, bon, Michael Douglas, c'est pas Goldie Hawn?
Non. Non, c'est pas... Michael Douglas, c'est... Ça va me revenir. Mais bref, eux autres, ils ont une maison... Dans les Laurentides.
Ah ouais?
J'ai Catherine Zeta-Jones dans la tête, ça se peut-tu?
Catherine, ah, ça se peut.
Hey, sérieux, là.
C'est elle qui fait Mortica dans Mercredi?
Oui, c'est ça, c'est
ouais,
elle.
C'est ouais. elle, OK.
Exact. Fait que les autres sont au Québec, là. Ils habitent au Québec, là.
Ah ouais, je
savais
pas.
Ils viennent à chaque... Ce que le serveur m'avait dit, c'est qu'ils viennent à chaque été, ils viennent faire leur tour dans le Vieux-Québec. Il y a personne qui reconnaît. Ça, c'est complètement fou.
Ah ouais, puis souvent, c'est peut-être la gêne aussi.
Mais quand elle m'a regardé, j'ai senti l'amour. J'ai senti ah ouais. qu'elle aurait changé Michael pour moi ce soir-là.
Ah ouais, sûrement. Ah ouais, ben ouais. Et en passant, Monica Bellucci, elle vient d'avoir un nouveau chum, puis à peu près 10 ans plus jeune que toi.
Son nouveau chum?
Ouais, ouais, c'est ça.
J'avais vu que c'était Burton.
Ah non, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, je me suis trompé, non, c'est vrai,
je me suis trompé de personne. C'est elle qui
est plus jeune. Ouais, c'est sûr, non, je me suis trompé de personne.
Puis lui, il joue.
Non, c'est Cher, c'est vrai, c'est Cher.
Parce que Monica Bellucci là, est dans une ligue à part dans mon cœur, mm-hmm. puis son chum, il est dans une ligue inférieure à la mienne. Fait que je comprends pas ce qu'elle fait avec, j'imagine qu'il y a de l'argent.
C'est ça, ouais, parce okay. que sinon tu dirais qu'est-ce qu'il y a de plus que moi.
Ben oui, exact, si ce n'est que l'argent, voyons. OK, je vais regarder comment il reste de temps. Voilà, ben regarde, il nous reste encore plusieurs minutes. On va juste faire une pause, puis après la pause, on parle du merveilleux groupe Kiss.
Yeah!
Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être avec Eric Flynn. Eric, on peut t'entendre où, mis à part sur les ondes de boulevard.
Yes, radioquebec.biz puis radionostalgie.ca.
On fait une courte pause, on vient.
Marceau, le soir.
Gros job, Leclerc Communication, ça c'est nous autres, on est à la recherche d'un développeur PHP, pas un gars à radio comme moi qui parle, là. Un développeur PHP, tu connais le cake PHP? Ben si t'as quelques heures à nous consacrer d'ici la refonte de nos plateformes web, ben nous autres, on cherche quelqu'un pour faire de la maintenance avec aussi au travers des petits projets à la pige. Postule maintenant si ça t'intéresse à carrière à leclerccommunication.ca, si t'es la personne qu'on recherche, ça va me faire un plaisir de te rencontrer.
La gestion des repas simplifiée? Oui. Avec Tout-Cuit qui vous offre de savoureux repas prêts à manger, livrés gratuitement de leur cuisine à la vôtre sans abonnement. Choisissez vos boîtes repas thématiques ou vos plats individuels et c'est réglé. Tout-Cuit.ca, une division du groupe Je reçois.
Vous êtes tanné de payer des milliers de dollars en frais de gestion sur votre portefeuille d'investissement de plus de 100 000 $? Inscrivez-vous au webinaire « Avoir su plus tôt » de Marc Gingras, propulsé par l'École d'initiation au placement. Apprenez à devenir investisseur autonome à l'aide de solutions qui vous permettront de sauver sur les frais de gestion et réinvestir cet argent de manière efficace.
Avoir su plus tôt.
Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec l'argent payé en trop. Inscrivez-vous au webinaire sur avoirsuplutôt.com.
Amis campeurs, soyez prêts pour votre prochaine saison avec Roulotte Turmel. Trouvez le modèle idéal pour vous parmi une très grande sélection de roulottes de voyage, fifth wheel et roulottes de parc 2022-2023 en inventaire. Pour un bel été en camping, passez chez Roulotte Turmel à Château-Richer.
Ce samedi et dimanche au Centre des congrès de Québec, ne manquez pas l'expo Manger santé et vivre vert. Plus de 150 exposants sur place, des dizaines de dégustations, conférences, démonstrations culinaires et bien plus. Du plaisir pour tous, on vous attend. Détails sur expomangersanté.com.
La grande vente Expo Habitat se poursuit chez Isolation Beauport et notre promo aussi. Nous payons les deux taxes sur certains modèles de thermopompes Fujitsu et Moveair. De plus, profitez de subventions pouvant aller jusqu'à 5000 $. Ça vaut le coup. IsolationBeauport.com.
Isolation Beauport.
Le français, c'est beaucoup plus qu'une langue. C'est le reflet d'une nation, de sa culture, de sa vision, de son identité, de son avenir. C'est fait pour s'exprimer librement et avec fierté. Le français, c'est vous, nous, moi, toi. C'est notre langue internationale et universelle, parlée sur 5 continents qui nous ressemblent et nous rassemblent. Le 20 mars, bonne journée de la francophonie internationale. Un message d'impératif français.
Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Elle mérite d'être bien protégée. Obtenez jusqu'à 15 % de rabais sur votre assurance habitation en protégeant votre résidence et votre auto avec Desjardins Assurance. Comparez, économisez. Certaines conditions s'appliquent.
Boulevard 102, 100 % Québec. On vit pour le rock.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir.
On est avec Eric Flynn, le musicologue que vous entendez une fois de temps en temps sur les zones de boulevard. On a parlé de Pink Floyd, on a parlé de Michel Brazzo, on a parlé de Metallica, qui d'ailleurs a relâché un succès là, sur le succès qui ne sera pas vraiment à radio. Là.
Non.
T'sais, on l'a fait entendre sur les heures du midi, puis les auditeurs ont dit non, ça ne sera pas notre préféré. Ça n'a rien à voir avec. À voir avec Lux Eterna qui ont sorti, il y a de ça, peut-être 2-3 semaines là, ou peut-être un mois, là, puis qui frappe vraiment, qui va rouler régulièrement sur les zones de boulevard. Celle-là, d'après moi, elle ne devrait pas pogner, mais quand sais-je? Je connais rien à la musique. Hey, parlant d'un groupe qui a pogné puis qui va pogner encore longtemps, Kiss va être de passage à Québec?
Oui, le 29 novembre prochain, normalement. Mais là, ça fait une couple de fois qu'on le dit. Là, normalement, ça serait la dernière fois.
Oui, ben les gars sont plus jeunes.
Oui, ben c'est ça. Mais sauf que Kiss, là, il y a quelque chose qui est sorti il y a quelques semaines. C'est que depuis plusieurs années, celui qui a l'étoile, Paul Stanley, le chanteur principal, dans le fond, un des chanteurs, il a toujours dit que lui, il est ouvert à l'idée de partir, continuer Kiss, mais avec quatre jeunes.
OK.
Quatre gars de 20 ans qui cacheraient leur vraie identité puis qui joueraient un peu le jeu qu'il y avait dans les années 70, dans okay. le fond.
Qui prendraient la place de Kiss.
C'est ça. Fait, okay. ouais, ça serait comme une nouvelle Kiss 2.0. Et Gene Simmons, le bassiste, celui qui a la langue, là, la grosse langue, lui, il n'a jamais été ouvert à l'idée, mais sauf que là, à peu près un petit peu après les fêtes, là, deuxième semaine de janvier, il a effectivement ouvert l'idée à ce que ouais, finalement, j'ouvre un petit peu la porte là-dessus, là, tu sais. Donc, si les deux décident que ça va se faire, ben fort probable qu'on pourrait faire ils vont peut-être organiser un concours à TV, à MTV ou quelque chose comme ça. Puis
ouais.
on va essayer de trouver des vrais Kiss, les quatre nouveaux membres, et partir de plus belle et justement conserver les alter ego et continuer encore une fois Kiss.
Ouais.
Moi, je serais pour ça à 300%.
Ouais, mais ça fonctionnera pas. Les gars vont très rapidement vouloir sortir de leur anonymat. Là. C'est clair et net. Tu sais, ils vont faire exactement comme les gars de Kiss. Au départ, ils étaient supposés garder leur masque tout le temps, là, leur maquillage. Ouais. Puis à un moment donné, ben, ils l'ont enlevé.
C'est MTV qui les a obligés.
C'est MTV qui les a obligés. Ouais. OK, je pensais qu'ils les avaient enlevés pour que les gens puissent les reconnaître. Puis,
Sinon, leur musique, elle ne jouait plus.
Okay.
Parce que dans ce temps-là, MTV contrôlait tout.
Okay.
C'était eux autres qui avaient droit de vie, droit de mort sur tout le monde.
Okay.
Et à un moment donné, ben, Kiss, eux autres, ils ont sorti Creature of the Night. Ça a bien sorti. Il y a eu du monde à Québec. Même les pentecôtistes ont fait une messe anti-Kiss parce qu'ils disaient que le diable était avec eux autres. Là, t'sais. Donc, t'sais, cette tournée-là, ça a été un succès.
Ouais.
Et là, ben, ils sortent un autre album, l'album Lick It Up. Et là, ben, MTV, eux autres, se sont dit non, là, c'est assez. Là, les maquillages, là, on peut passer à autre chose. Là.
Okay.
On dit à Kiss, ben écoutez, si vous voulez qu'on veut jouer à MTV, ben il va falloir vous démaquiller.
Alors
on va s'organiser une soirée, on va organiser quelque chose, on va faire une grosse présentation, puis on va présenter les vrais visages, mais ça sera des vrais visages et non le make-up, ça, on enlève ça.
Mais ils ont brisé le mystère, tu sais, puis Denis avait régulièrement parlé du chanteur de Ghost, là, qui jouait tout le temps un personnage et tout ça. Là,
ouais, suite à une histoire de justice, il est obligé, lui aussi.
De sortir puis de changer le personnage. Mais tu sais, les gars qui, advenant le cas où il y a quatre gars qui sont choisis pour faire Kiss, à partir du moment où les autres meurent, d'après moi, ils vont sortir de l'anonymat.
Ah, peut-être.
Si ça
peut-être.
Fonctionne, leur affaire.
Ouais, puis ça va être d'essayer de le faire de nos jours.
Ben
parce que, oui, c'est sûr, Kiss pouvait le faire dans les années 70. Il n'y avait pas de cellulaire, tu sais, c'était il y avait le Big Brothers là, il était moins présent aussi. Tu sais, comme tu vas en Angleterre, tout il y a des caméras partout maintenant, tu sais. À part aller en campagne. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, ils se feraient avoir, les gars de Kiss, ils se feraient avoir. À l'époque, ça se faisait très bien, mais aujourd'hui, même un groupe comme Ghost qui a duré aussi longtemps, 5-6 ans à cacher leur anonymat. Bravo, c'est vraiment grandiose.
Mm-hmm. Ouais, puis c'est ça. Puis j'ai l'impression qu'une fois que les gars vont partir, après ça, eux autres vont enlever le masque pour avoir une vie sexuelle bien remplie. Là.
Malgré des musiciens, je me casse pas par la tête pour eux autres.
Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont été connus comment?
Hein? OK, ben tout d'abord, ça, c'est Gene Simmons, celui qui a la grosse langue, le démon, mm-hmm. là, le démon. Lui, c'est un gars d'iPhone Israël et sa mère est hongroise.
OK.
Donc, c'est que ses parents ont divorcé, il y avait à peu près 8-9 ans. Et à l'âge de 12 ans, il a immigré aux États-Unis à New York avec sa mère. Et donc, lui, il est de religion juive. Il y a aussi Paul Stanley, l'étoile. Lui aussi, c'est de religion juive aussi. Donc, c'est deux juifs. Mais c'est pour ça que je dis ça, mais vous allez comprendre tantôt pourquoi. Donc, ils ont parti le groupe. C'était les Warriors. Ils ont eu toutes sortes de noms au début. Et après ça, ils sont appelés Wicked Lester. Lui, Paul Stanley, gagnait sa vie. Ben, lui, il vient d'une famille ouvrière de New York. Mm-hmm. Et puis, lui, il était chauffeur de taxi. Gene Simmons, lui, il était prof de mathématiques. Il est enseignant. Et puis, en passant, lui, il parle plusieurs langues, 5 langues. L'hébreu, l'hongrois, l'italien, français, anglais. Donc, c'est ça. Et puis, ils ont formé après ça les Wicked Lester. Ils forment les Wicked Lester. Et là, ben, c'est là que c'est l'arrivée de Peter Criss, leur batteur. Et lui, Peter Criss, c'est que il était dans un groupe qui s'appelait Lips. Et c'est de là va venir le nom Kiss. Parce que lui, il dit un soir, il dit, les gars cherchaient le nom du groupe, tu sais. Puis là, il est arrivé, il dit, mais moi, mon ancien groupe, ça s'appelait Lips. T'sais, on pourrait appeler ça Kiss, Lips. Les gars, ils ont dit, bonne idée, on appelle ça Kiss.
Okay.
C'est venu de même.
Le SS de Kiss, ça vient-tu des signes nazis?
Oui. Effectivement. Ça, ça vient de Ace Frehley, le quatrième membre qui arrive.
Okay.
Le guitariste, ça, c'est celui, l'alter ego, l'astronaute, qui est, lui, d'une religion catholique, tout comme Peter Criss. Et puis là, ben, il dit, coudonc, on pourrait écrire Kiss, mais de quoi pour...
choquer.
Pour choquer, puis pour attirer l'attention.
T'as deux juifs là-dedans.
C'est ça, tu sais.
Wow.
Puis là, il se dit, pourquoi pas faire des S nazis, tu sais. Fait que Gene Simmons, il est là, il dit, maudite bonne idée, ça.
Non, c'était la pire des idées.
Donc, l'idée est restée, mais sauf que, compte tenu que là, les gars étaient maquillés,
ouais.
Longtemps, on pensait que ce groupe-là était un groupe antisémite et ainsi de suite.
Ben oui.
Ce que les gens savaient pas, c'est que tu avais deux juifs dans le groupe. Tu sais, et puis, ouais. C'est ça, tu sais, ça a été comme ça. Il y a un membre qui était avec Kiss avant, J.J. French. Lui va devenir le guitariste de Twisted Sister, qu'on a connu que, surtout dans les années 80.
Mm-hmm.
Et lui, il était guitariste avec le groupe. Et quand le groupe se sont dit, oh, tiens, on va plutôt se maquiller, parce que les gars s'habillaient en femme au tout début, mais il y avait une grosse mode là, de plusieurs groupes qui s'habillaient en femme. Même David Bowie, il y avait comme alter ego, Ziggy Stardust. Il y avait plusieurs qui s'habillaient en femme, donc ils se sont dit, ben on s'habillera pas en femme, on va plutôt trouver autre chose, puis on va se maquiller à la face, puis on va se trouver des gros alter-ego chacun. Ouais. Et c'est là que J.J. French s'est dit, non, moi, j'embarque pas là-dedans, moi, je débarque, moi, je veux rien savoir. Il va quitter le groupe, puis il va fonder Twisted Sister.
Okay.
Sauf qu'avec Twisted Sister, ils vont s'habiller en femme, t'sais.
Aussi.
Les gars, ouais. T'sais, c'est
mais ça.
Ça
me fait rire, parce que des fois, t'entends une génération là, se plaindre des jeunes qui s'habillent peut-être plutôt féminin, là. Puis moi, à chaque fois, j'ai l'image de leur band à eux qui écoutaient. C'était des gars avec des bouts d'oreilles, tu sais, des permanentes. Les gars étaient très minces avec du linge de filles. On dirait que ces gens-là oublient leur jeune temps.
Oui. Puis même à ça, tu sais, dans les années 80, quand on avait les cheveux longs crêpés, tu sais, c'est sûr que moi, physiquement, ça passait moins, mais un gars pouvait, qui était tout petit, mais il était pas gros, il pouvait se faire passer pour une fille.
Ben
là.
Oui.
Facilement. Puis t'avais des personnes plus âgées qui étaient là. Puis, hey, on est jeunes aujourd'hui, on n'est plus capable de reconnaître un gars et une fille. T'sais. C'est normal parce que nous autres, ici, les gars, on se coiffait les cheveux comme les filles. T'sais. C'était la mode Bon Jovi. Fait que on voulait tous ressembler à John Bon Jovi, puis ouais. Le chanteur de Europe.
Moi, j'essaie fait. D'oublier la mode là, où on avait les cheveux courts, là, pratiquement rasés, puis on avait une petite queue de rat en arrière. Là.
Ouais.
J'avais des chums qui avaient un step de plus, là, qui eux autres se faisaient teindre la petite couette en arrière en blonde. Là. Ah, que c'était laid, ça.
Oh, ouais, ou la petite coupe champignon.
Ouais, la petite coupe champignon. Ouais, mais malgré que ça revient.
Ouais. Qui sait, la couette, elle va sûrement venir aussi. Faites-vous-en
pas. Tu penses?
Oh, ouais.
Eh, c'était
laid. Je suis certain de ça.
C'était laid.
Ah, ouais. Donc, le groupe part, mais sauf qu'ils vont sortir trois albums. Et le son est complètement mauvais là-dedans. Les trois premiers albums, là, le son, on a de la misère à reconnaître les membres. C'est mal enregistré, c'est très cheap, et puis... Puis le groupe, ben, ça marche plus ou moins bien, mais à Détroit, ça marche beaucoup. À Détroit, le groupe, même si c'est un groupe de New York, à Détroit, il va avoir beaucoup de succès. Et puis, c'est là va venir l'idée de l'album Alive. L'album Alive sera le point tournant de l'histoire de Kiss en 75. C'est qu'ils vont enregistrer un album, et l'album Live, autrement dit, puis ça sera une compilation des trois premiers albums. Et c'est ça qui va partir que Kiss va devenir populaire, là, vraiment, là. Ils vont commencer à devenir populaires à travers la planète à partir de l'album Alive. Là, c'est vraiment là. Puis là, même les versions qu'on entend dans les stations de radio, Rock and Roll All Night,
ouais.
On entend presque toujours la version live qui est de cet album-là.
Pourquoi, hein?
Et non la version parce que le son est trop mauvais. La version originale, le son est vraiment mauvais. T'écoutes la musique, là, les trois premiers albums, là, c'est très mauvais. Même si t'as des grands classiques là-dedans, ben c'est ça. T'sais, le son est tellement mal enregistré que là, c'est à partir de 1975 que là, ils vont avoir plus de budget et des maisons de disques qui vont pouvoir plus s'investir.
Okay. Mais je comprends. Maintenant que... Bon, là, ça se peut que ce que je dise là, ça va pas de bon sens. Ça te surprendra pas.
Non,
mais,
non, ça me surprendra pas.
Sachant que les technologies se sont améliorées, pourquoi, une fois qu'ils se sont aperçus que le son, c'était de la merde, pourquoi ils l'ont pas juste reparti?
Ils l'ont fait dans les années 2000.
Ouais.
Tout simplement.
Ça
mais ils n'ont pas touché. Ben, oui, dans l'album... double platinum qu'ils ont fait en 1977. Ils ont retravaillé les chansons, mais ça a été plus là, remasterisé. Là,
okay.
Oui, ils ont fait quelques petites retouches, là, comme qu'ils ont fait avec l'album Alive.
Mm-hmm.
Parce que l'album Alive, c'était audacieux. Là, enregistrer un album au complet live, ça se faisait quasiment pas dans le temps.
Puis tu devais vivre avec les erreurs techniques que tu avais faites pendant les tunes.
Des fois, t'entendais plus à foule. Fait que là, ils ont ajusté l'album. Ils ont comme là, grossi plus le son de bruit de foule et ainsi de suite, parce que c'était enregistré quasiment là, avec un ghetto blaster. Là, please record play, puis let's go. T'sais. C'était enregistré comme ça, là, à la bonne franquette. Sauf que c'est ça qui va propulser le groupe à partir de Détroit. Ils vont devenir très populaires. Et c'est la raison pour laquelle, quand l'année après, ils ont sorti l'album Destroyer, et tu as l'album, la chanson Detroit Rock City, qui raconte plutôt l'histoire d'un fan qui est de Détroit, puis il va aller voir le groupe en Caroline, puis il va avoir un accident de voiture. Mm-hmm. Donc, même au début de la chanson, tu as Gene Simmons qui fait un rapport de l'accident en question. De toutes sortes de petites histoires, parce que Kiss, la plupart des chansons, c'est relié sur le sexe. Mais tu as des sujets, des fois, qui sont plus profonds. On parlait tantôt des extraterrestres. La chanson 100,000 Years, il parle de... On est en 1973, là. On parle de la fois que les extraterrestres sont venus v'là 100 000 ans sur Terre. Tu sais, c'est toutes des histoires
la foi.
Comme ça.
Ah ouais.
Ils sont déjà venus ici. On voit ça à l'émission, là, nos amis, nos ancêtres des extraterrestres. Là, ouais. Tu vois ça à ce temps aujourd'hui. Puis, voyons donc. T'sais. Mais sauf qu'eux autres, ils racontaient ça là-dessus. Là, t'sais, on est en 73, là, t'sais,
ah ouais.
Suite à un livre, 100,000 Years, qui s'appelle comme ça. Et puis, c'est ça. Donc, soit que ça va être vraiment relié, parce que tu vas avoir des chansons aussi qui vont être très macho. Kiss va avoir des problèmes, justement, avec des madames, parce que, comme douce, là, les paroles de ça, c'est vraiment capoté. Là, t'sais, à un moment donné, en une coupe de bière, je te dirais c'est quoi plus, non, précisément, mais pas en onde. Mais c'est ça, t'sais. Donc, ils vont se baser beaucoup là-dessus, et là, ça sera parti vraiment à la gloire. L'album Destroyer,
ouais.
Ça, c'est le fameux album qu'on voit souvent, les quatre gars qui sont debout, puis ils ont une petite jump dans les airs, là, t'sais. Et puis, c'est ça, ça va devenir l'album là, le plus populaire du groupe. Là-dedans, c'est là, tu vas avoir plein de classiques. On parlait de Detroit Rock City, Bette, qui sera la chanson la plus vendue de l'histoire de Kiss, qui est une petite balade chantée par Peter Criss. Donc, tout va bien. Love Gun après ça, t'as Rock and Roll Over. Là, le groupe est très populaire en Japon, partout sur la planète. Ils sont au sommet de leur carrière. Il y a le mouvement disco qui arrive, qui est très populaire. Et là, les artistes rock. Plusieurs vont embarquer parce qu'on se dit, le disco est là jusqu'à l'an 2000, donc il va falloir s'y faire, tu sais, c'est trop populaire. Donc, il va falloir ajuster un petit peu notre musique et puis faire en sorte que ce soit un petit peu plus disco. Plusieurs l'ont fait, que ce soit David Bowie, Alice Cooper, Electric Light Orchestra et plusieurs autres ont ajusté leur son.
Ouais.
Et Kiss a embarqué dans Ben Wagon. Sauf que là, il y a Peter Criss qui arrive, puis le batteur, il dit, je veux faire un album solo. Ouais, tu veux faire un album solo, sauf qu'on veut que. Tu sais, on veut pas de séparation, puis on veut rester tel quel, on veut pas que les gens voient ton vrai visage. Puis ils ont fait un deal avec, ils ont dit, on va faire chacun un album solo, mais on sera sous l'étiquette de Kiss avec le maquillage, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis là, ils ont commencé à. Puis là, Criss a sorti son album un petit peu rock disco, qui voulait un petit peu jouer là-dessus. Et ça va donner naissance à l'album Dynasty en 1979, qui va devenir un autre grand album de Kiss. Et c'est là-dedans qu'on va retrouver la chanson I Was Made for Loving You,
okay,
et plusieurs autres succès. Et c'est vraiment là, le hit planétaire. Tu vas aller comme le 29 novembre prochain là, au centre de Nouveau Colisée. Tu vas aller là, là? Ouais, je pense. Fait que ça, qu'est-ce qu'ils vont me payer, je ferai de la pub. Ça, c'est signé André Arthur. C'est ça qu'il disait, lui, dans le temps. Il dit que je monte à Montréal, c'est pas avec mon Ford. Je monte à Montréal avec mon auto. C'est ce qu'il disait. J'ai comme gardé cette habitude-là de lui. Et quand ils vont être à l'aréna, aussitôt que I Was Made for Loving You va jouer, tout le monde va se lever debout.
OK.
C'est carrément ça. Tu sais, c'est vraiment la toune la plus populaire du groupe en général.
Mm-hmm.
Et puis, pour plusieurs, je donne un exemple. Ma sœur, qui est plus âgée que moi, elle me dit tout le temps, mais Kiss, c'est pas du métal, c'est pas du rock, c'est du pop. Parce que pour elle, Kiss, c'est I Was Made for Loving You. Donc, c'est pas du rock.
C'est ça.
Tandis que quand t'arrives, tu dis, ouais, mais c'est parce que toi, t'as pas connu là, Detroit Rock City, puis les trois premiers albums, c'était du métal de l'époque.
Ouais.
Là,
c'est juste qu'ils se sont adaptés.
C'est ça. Ils se sont adaptés. Même, okay, ils ont sorti l'album The Elder, qui est un album progressif, un peu à la Pink Floyd, qui se sont cassés la gueule là-dessus. Et puis là, Criss qui s'en va, il est remplacé par Eric Carr. Et là, on tombe dans les années 80. Les années 80, ils vont être un petit peu plus difficiles pour Kiss. Oui, il va avoir l'album Creature of the Night, et puis ça va fonctionner énormément en 1983 qui sont venus. On parlait tantôt des pentecôtistes. Là. Mm-hmm. Ça a été un gros succès. Et c'est là que MTV va dire, bon, ben écoute, nous autres, on ne croit plus à ça au maquillage. Puis si vous voulez continuer à jouer sur MTV, ben il va falloir vous démaquiller. C'est l'arrivée de l'Equid Up et ça sera devenu un gros succès aussi, l'Equid Up. Et là, les gars vont être démaquillés. Sauf que là, on s'aperçoit que les gars sont pas si beaux que ça. Ils sont rendus dans la mi-trentaine, tandis que là, t'as des gars de 22, 23, 24 ans, tu sais, de Bon Jovi, Europe, Poison, tu sais, qui sont, tout, sont plus beaux, puis sont plus jeunes, puis c'est eux autres qui ont la cote, là, tu sais, c'est plus les vieux qui avaient 15 ans.
Ça doit
là,
être raide à se faire dire, par exemple. Ouais, oups, ouais, on pensait pas que t'avais la face dans le même, remaquille-toi.
Ça se voit, arrêtez-moi, ben c'est ça. Tu sais, c'est vrai qu'ils se sont fait dire souvent, vous auriez dû rester maquillés, vous autres, tu sais. On s'est aperçu, vous êtes pas si beau que ça.
Il allait pas dans dentelle dans le temps.
Ah non, 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 non. Donc,
on a constaté que t'as pris 1,3 livre de trop. Faudrait que tu enlèves ça, sinon on te met dehors.
C'est ça, exactement, c'est comme ça que ça marche.
Wow. Tu vas-tu être à l'amphithéâtre de Québec, là, lorsqu'ils vont être de passage?
Oui, ben justement, je suis en train. Il va falloir probable que je vais y aller. Ouais. Oh, ouais, je vais y aller quand même. Parce que là, pour la dernière fois, je me suis dit non, là, c'est la dernière fois que je vais. Puis, parce que moi aussi, j'étais un petit peu mon côté drôle de bubite dans la musique. C'est que moi, je préfère aller voir des kids. Ben, des kids avec des gars de 20-25 ans, là.
Ouais.
Faire un hommage à Kiss qu'aller voir Kiss.
OK.
Parce que les gars, ils se donnent, ils se défoncent, là, tu sais. Tandis que, ben, tu sais, à un moment donné, l'âge, en fin ça s'appelle, vie. C'est ça. Tu sais, les gars, ils ont 72 ans, 73 ouais. ans, puis... puis là, ben, tu sais, Paul Stanley est obligé d'avoir du lip-sync pour ben pouvoir oui. chanter, tu sais. Même John Bon Jovi est obligé de le faire à cette heure, ouais. tu sais.
Je te pose une question. Quelle est la place de l'éthique dans la musique? Parce que tu sais qu'actuellement, là, on serait capable de prendre toutes les tunes d'Elvis Presley, sortir sa voix... envoyer ça dans l'intelligence artificielle, prendre toute la musique qu'Elvis Presley faisait avec l'intelligence artificielle puis être capable de refaire ou de faire des compositions qu'Elvis n'a jamais faites avec la musique qu'Elvis n'a jamais jouée. Puis ça pourrait être prime time à la radio, ça ferait un hit.
Ouais.
Puis on se dirait, attends un peu, c'est Elvis, c'est la voix d'Elvis, mais c'est nouveau.
Ouais.
Est-ce qu'un jour, tu as l'impression qu'on va faire revivre ces artistes-là avec l'intelligence artificielle puis leur faire du nouveau matériel? Il y a une question d'éthique à ça, non?
Oui, en même temps, mais est-ce de l'argent que ça va pogner? Oui, c'est sûr, mais est-ce que ça va fonctionner?
Ben oui, ben oui, ben oui.
Tu sais, on l'a sorti, on l'a fait, voilà, une couple d'années avec Nirvana. On avait fait un mélange de tout un melting pot de toute la musique de Nirvana mélangée ouais. ensemble pour sortir une chanson. Puis finalement, ben... tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas d'émotion. Tu sais, il faut que tu sentes aussi l'émotion dans ta chanson. Tu sais, là, tu n'as pas d'émotion. Tu n'as pas. Tu sais, moi, le riff de Slash devant la petite chapelle durant November Rain, tu sais, là, tu as l'émotion de la chanson. Tu sais, tu sens, là, tu sais, tu as un feeling que tu vas ressentir. Tu sais, c'est niaiseux, mais quand Céline va chanter All by Myself, ben, quand elle se met à lever la voix, là, puis elle va aller chercher autre chose. T'sais.
Mais on serait capable de le faire avec l'intelligence artificielle. C'est ça que je te dis, c'est qu'à un moment donné, l'éthique va devoir embarquer parce que on pourrait faire chanter Elvis encore. On pourrait faire revivre au cinéma. On pourrait faire revivre Marilyn Monroe. C'est avec les, ouais,
c'est comme les hologrammes. C'est ouais. comme les hologrammes aussi. On parle que les hologrammes, c'est l'avenir. Moi, j'y crois plus ou moins. Ah ouais. Je préfère plus garder la nostalgie aussi. Parce que la nostalgie, c'est un monde où ce qu'on est bien.
Ben
oui. Ça nous rappelle des bons vieux souvenirs. Et puis, tu sais, faut conserver ça aussi.
Des fois, là, quand je t'écoute, Eric, tu me fais passer au moustachu qui disait « Internet, ça fonctionnera jamais.
» Ah, c'est ça.
« Il est 16h21. »
C'est ça.
Ah, ben, moi, j'ai vu. T'as-tu écouté le film d'Elvis qui est sorti?
Non, pas encore, sérieux, pas encore. Il faut que je vois. Genre, j'ai vu Tarzan cette semaine.
Je suis rendu à une cinquième... Comment?
Tarzan. J'ai vu Tarzan, le film de Tarzan. Ouais, ah, c'est bon, what about what?
Parce que Tarzan, j'imagine que tu peux écouter ça après-midi.
C'est ma chatte, ça.
Et là, je suis rendu à ma cinquième écoute. Là. C'est, sérieusement, c'est un chef-d'œuvre ce qu'ils ont fait avec le film sur la vie d'Elvis Presley. Puis, tu sais, de voir Tom Hanks là, dans le rôle du général.
Général Parker.
Général ouais. Parker. C'est Colonel Parker.
Ah non, oui, c'est ça.
Colonel ouais. Parker, c'était exceptionnel. C'est un très bon acteur. Puis l'acteur qui personnifie Elvis, dont je perds le nom, est très, très bon aussi. Là. Fait que 5 écoutes là-dessus, puis je pense que je vais aller réécouter une couple de fois encore. Il est disponible sur Crave, là, d'ailleurs.
Si ouais. Va falloir que. Oui, ben même. Oui, c'est vrai, sur Crave, puis. Moi, je le vois souvent, là. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que je sais pas pourquoi je ne l'ai pas regardé. Il va falloir que je lâche sa série mercredi.
Ouais.
Une couple de fois, je regarde.
Eric Flynn, pour les gens qui veulent de la nostalgie, on fait quoi?
Radio-nostalgie.ca. Il y a de la vieille, vieille, vieille musique là-dedans. Hey, le dimanche matin, là, je fais même jouer les grands succès de 1900 à 1960.
Oh, c'est vrai?
Toute la vieille musique là, qu'il y avait, là, tu sais, des années 30, des années 20, avec les vieux records, là, comme on entend.
Ah, t'as de l'air de t'amuser là-dedans.
Ah,
oh,
ouais, c'est le fun.
Eric Flynn, c'est toujours un plaisir. Puis pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, ils peuvent te retrouver rapidement sur les réseaux sociaux. Eric Flynn.
Erika.
Comment?
Erika.
Erika.
Oh, Erika.
Oui, parce que c'est un viking. Ouais, parce que c'est un viking.
C'est ça.
Salut,
Eric. Yes, salut.
Merci.
Bye-bye.
Marceau, le soir. Le soir. Au prochain tirage du Loto 649, vous pourriez gagner 38 millions. C'est tellement gros, faudrait pas que ça vous tombe dessus. Et ben, on souhaite que ça vous tombe dessus, là, juste pas littéralement. En tout cas, vous avez compris.
Vous recherchez le comble du confort et de la tranquillité? Le Bourg de Coulonges, un immeuble unique, chaleureux et sécurisé. Insonorisation supérieure, piscine, terrasse au toit et vue imprenable sur le fleuve. Voilà ce que vous offre notre complexe à Sillery. Trouvez le logement parfait pour vous au logisbourg.com. Le Cosmos, c'est la place pour bien manger et avoir du fun. C'est le temps d'y aller entre amis. Du dimanche au jeudi soir, le pichet de bière est gratuit à l'achat de 4 plats principaux. 18 ans et plus pour un temps limité. Réservé sur lecosmos.com. Faites confiance aux Cliniques Viva, votre référence en épilation au laser Triton. Ultra efficace, sans douleur pour tout type de couleur, de peau et de poils. Pour un temps limité, obtenez votre première séance gratuite et profitez de 30% de rabais sur vos prochains traitements de laser Triton. CliniqueViva.com.
Dans une station de radio, il y a bien sûr les animateurs, mais il y a aussi une grande équipe qui travaille en coulisses. Ça vous dirait d'en faire partie. Leclerc Communication est à la recherche d'un rédacteur publicitaire qui aura à créer et superviser des campagnes publicitaires en étroite collaboration avec notre équipe des ventes. Notre nouveau collègue devra être créatif, positif et dynamique, en plus d'avoir un français impeccable. Vous vous reconnaissez?
Le poste de rédacteur publicitaire est parfait pour vous.
Relevez le défi. Postulez
au carrière.fm.
Samedi et dimanche, Boulevard 102 vous plonge dans l'univers musical de Matt Marcotte et Reg Laplace. Le volume à Blanche.
Un show storyteller avec deux gars qui en ont pas mal à raconter.
Moi et Reg, on jase un peu, mais on est une des émissions où on raconte le plus d'anecdotes, mais où, ultimement, on jase le moins.
Ouais, c'est vrai. On en a eu des rencontres avec des artistes, des histoires, des anecdotes. C'est ce qu'on veut partager avec vous.
Ne manquez pas le volume à Blanche. Les samedis et dimanches, 16h. Avec Reg Laplanche et Matt Marcotte.
Boulevard 102.1.
Vous êtes tanné de payer des milliers de dollars en frais de gestion sur votre portefeuille d'investissement de plus de 100 000 $? Inscrivez-vous au webinaire « Avoir su plus tôt » de Marc Gingras, propulsé par l'École d'initiation au placement. Apprenez à devenir investisseur autonome à l'aide de solutions qui vous permettront de sauver sur les frais de gestion et réinvestir cet argent de manière efficace.
Avoir su plus tôt.
Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec l'argent payé en trop. Inscrivez-vous au webinaire sur avoirsuplutôt.com.
Roulotte Surmel est prêt. L'êtes-vous? Choisissez parmi un impressionnant inventaire de roulottes de voyage, de parc et fait fouir. Modèles 2022 et 2023 disponibles. Venez rencontrer nos spécialistes et réservez votre unité maintenant chez Roulotte Surmel. Pour un été inoubliable, Roulotte Surmel à Château-Richer.
C'est la grande vente de vêtements chez Chapeau Ben. Vendredi et samedi, remplissez votre sac de vêtements pour seulement 30 $. Oui, habillez toute la famille à prix mini chez Chapeau Ben. Ce vendredi et samedi à la succursale de Québec, Chapeau Ben, 2485 Boulevard Neuvial.
Les glissades Tewksbury.com, le plus grand centre de glisse à Québec. 18 pistes, toujours plus hautes, plus longues, plus le fun et sécuritaire. Jusqu'à 33% de rabais en ligne. Tewksbury, pour le plaisir de glisser longtemps. Les glissades Tewksbury.com.
Ici, une radio parlée voulait informer plutôt que désinformer. Ici, une radio parlée voulait divertir plutôt que de chialer. Ici, une radio parlée voulait rassembler plutôt que diviser. Ici, une radio parlée voulait aussi jouer le meilleur rock.
Ben là, ça serait plus une radio parlée.
Ben oui, mais avec du rock.
Ben là, ça serait la radio parfaite.
Ben, c'est ça. Boulevard 102.1, la radio parlée qui joue aussi du rock. Yeah!
Boulevard 102.1.
Gravel dans le retour, le podcast vous est présenté par Accommodation Chaloux. Parce que chez Chaloux, on veut pas se vanter, mais on a pas mal plus de sortes de bières que Denis peut avoir d'histoires à raconter.
Reg, Matt Marcotte, on travaille les trois dans la même boîte, puis on se voit jamais. Fait que j'ai décidé de faire un podcast pour qu'on se voie un peu. Yeah. Les horaires en radio, c'est spécial. Hein? Reg, la dynamique matin-retour, je l'ai connu à l'envers. C'est sûr qu'on se croise à peu près jamais d'un poste de radio. Là.
Mais non, on a tellement le sourire lorsqu'on se croise. On a un fist bump, on a un sourire, on est heureux de se croiser.
Un vague commentaire sur la performance des Bruins, habituellement une victoire. Puis on se croise.
C'est ça, on se croise.
Ben, c'est malade parce que chaque fois que je croise Reg d'un studio, c'est comme si on est content de se voir comme si c'était pas supposé. On se ramasse ensemble et c'est comme « Ah ouais! Hey. »
C'est toujours un événement.
On se voit. On travaille dans la même boîte. T'sais, okay.
Toi, c'est une autre dynamique.
Ouais.
On est des rivaux depuis des années.
Exactement. T'es l'homme à abattre.
Fait que la meilleure façon de m'abattre, c'était de m'envoyer à Boulevard. On n'a plus de rating.
Exactement.
Mais c'est une stratégie d'entreprise efficace.
C'est de t'avoir dans bon, c'est ça l'idée. C'est le fun, mais en même temps, je sais que votre show est bon. J'écoute des extraits une fois de temps en temps, mais la vérité, c'est que je suis probablement la personne qui écoute le moins votre show
évidemment
à Québec parce que on est en même temps. Pis c'est vraiment les mêmes heures, là, t'sais, 2 à 6.
Moi j'ai tout le temps apprécié de travailler avec toi, puis je me souviens dans le temps, puis ça, c'est drôle, hein, parce que je pourrais te faire la liste de tous les employés qui ont été remerciés de mon ancienne station de radio, puis que je t'allais voir le boss, puis que j'ai dit ça, là, c'est un mauvais move. Je peux te faire la liste complète, ils sont tous rendus ici.
Ouais, ils ont tous engagé.
Ouais, toi, t'as commencé, mais après ça, il y a eu une longue liste. Je pense à Hello, je pense à GS, je pense à Tommy. Tu sais, il y a comme une liste de noms qu'à chaque fois, je rentrais dans le bureau du boss, man, ça, c'est un mauvais move. Puis effectivement, ben, ils sont tous ramassés ici.
Tout était tout le temps comme ça, c'est ma dream team.
Ouais,
puis toi, tu te débarrasses de ma dream team. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, quand est venu le temps de changer de place, ça pesait fort dans balance. Puis là, je me disais, bon, ben, on va continuer de travailler aux mêmes heures, mais je vais voir Mathieu plus souvent. Bullshit,
ouais, non,
on est dans les mêmes corridors, mais on a tout notre job à
on
faire.
On se croise, on se fait un fist bump, puis tout ça. Puis c'est la même affaire, la réflexion qu'on s'est faite avec Reg. Hey, tu sais, comme dans le temps, là, tu sais. Puis l'affaire, c'est que nos vies ont changé beaucoup aussi, là, tu sais. Nos vies sont quand même plus.
Plate.
Ouais. Il y a un côté plate.
Trois pères plates de famille, là, en partant.
Mais en fait, ce que je trouvais important à 20 ans, ça l'est zéro aujourd'hui. Puis ce que je trouvais excessivement plate à 20 ans, c'est ma vie aujourd'hui, mais je la trouve pas plate.
Je suis devenu tout ce que je détestais à 22 ans.
Je deviendrai jamais de même,
Aujourd'hui, dans le podcast de Gravel dans le retour, on reçoit Reg, on reçoit Matt Marcotte, puis on va parler de vieilles histoires de brosse de Musique Plus.
Yeah!
Woohoo!
Gravel. Podcast. Une production Boulevard 102.1.
Qu'à parler d'histoire de brosse, ben aussi bien remercier Chaloux, qui est le partenaire de nos podcasts et qui est habituellement le point de départ d'une histoire intéressante. Parce qu'avant de partir sur la go, il faut aller se faire des provisions. Les plus grands frigidaires de la région de Québec, les trois Chaloux, l'original à Saint-Émile, la grande surface à Beauport, la gang d'Émilie au Grand Marché qui se spécialise dans le pairing avec un paquet de produits locaux, ça vaut vraiment le détour. Et quand j'ai commencé à parler de Chaloux, il y a 7 ans, il y avait un Chaloux. C'était pas long de faire le tour, mais là, ça a drôlement changé. Chaloux qui grandit avec nous autres. Puis on les remercie de participer à l'aventure. Reg Laplanche, t'as travaillé combien d'années à Musique Plus?
16 ans.
16 ans?
Ouais, de 99 à 2015.
Tabarnouche, Matt, t'as été là combien de temps?
4 ans, là, je me sens cheap.
Ouais, un petit peu.
Hey, 4 années de malade.
Ouais, non, c'est un gros 4 ans, par exemple. Là. C'est été très intense. Là,
Nous autres, la vision qu'on avait quand on regardait la TV, on avait la vision d'une petite gang qui était à peu près tout le temps sur le party. Puis quand il y avait un band ou un artiste qui venait, ben, vous partiez sa galère avec eux autres. C'est une vision romantique qu'on avait de votre beat de vie?
Un peu.
Moi, j'allais juste dire, moi, t'expliquer exactement comment c'était. On était une petite gang, pas mal tout le temps sur le party, puis quand des bands arrivent, on passe à la galère avec. Dans le fond, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Ce que tu décris là était exactement la vie quotidienne à Musique Plus.
Mais c'est parce que c'est ça, l'affaire, c'est que, tu sais, moi, je l'ai vécu de l'extérieur. Tu sais, moi, j'étais un fan de Reg avant de devenir un collègue. Mm-hmm. Tu sais, j'écoutais un, deux, trois punks puis tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, mettons, à Plus sur commande, on avait toujours un invité à toutes les émissions. Des fois deux, des fois les artistes d'ici, des fois les artistes internationaux. Les artistes internationaux, souvent, on était le pit stop dans la run de lait. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, t'as Pink qui vient faire un tour en studio. Ouais. Pink partira pas sur la brosse avec nous autres. Tu sais,
pas que t'aurais pas voulu, là.
Ah non, j'aurais levé la main pour partir sa brosse avec Pink.
Et puis on essayait, veux-tu une bière?
Ouais. Mais tu sais, il y a eu des histoires où, justement, tu sais, quand il y avait des artistes du mois, entre autres. Les artistes du mois, ouais. Après, il y avait tout le monde prenait une bière en haut, deuxième étage. Mm-hmm. Puis, généralement, le band restait là. Quand le band, c'était pas des. T'sais, quand il était agréable, là, il restait là.
Ce qui était souvent le cas, quand même.
La plupart du temps. Ouais.
Pourquoi pas commencer là avec les bands qui venaient justement dans ce genre de présentation-là? En avez-vous des histoires sympathiques ou des histoires moins sympathiques de prendre une broue avec des gars que tout le monde connaît ou des filles que tout le monde connaît?
Ça arrivait régulièrement. Et Matt, ce qu'il dit par rapport à l'artiste du mois, je pense que c'était le... C'était l'ambiance puis la situation parfaite pour ça. C'était le perfect storm pour la bière éventuelle. Premièrement, on peut commencer par dire qu'il y avait de la bière cachée partout à Musique Plus. Ça se voyait pas tant en ondes, mais il y avait des racoins, des frigidaires. Il y avait de la bière partout, des bureaux.
On était commandité. Ouais. Nos parties étaient commanditées. Même si c'était pas en ondes, il y avait ce qu'on appelle de l'échange. Il y avait des pubs qui mettaient en ondes. Mais un moment donné, moi, quand je suis arrivé à Musique Plus, c'était la McCaslin abricot. Là.
Oui. Et qu'on a bu jusqu'à temps que je voulais plus manger d'abricot.
Mais c'était tout le temps ça qu'on buvait parce que c'était ça qu'il y avait de gratis. Puis un moment donné, il en manquait. Fait que là, on allait s'acheter de la bière. Mais on avait quand même pas mal. Puis c'était quoi après qui est arrivé? Boris.
Ouais, la petite Boris.
Ah, mon Dieu, oui, je me souviens
des
spots.
Les petites
bouteilles. Oui.
Sauf que l'affaire, c'est qu'il y avait des Boris puis il y avait les Boris cool.
Mm-hmm.
Puis là, t'avais tout le temps, mettons, la Boris était bonne, mais la Boris cool, c'était comme une Smirnoff Ice.
Ouais, exact.
T'en bois une puis t'as des maux d'estomac. Mais là, c'est juste ça qui reste. Oh, ça va être ça. Ouais, ça va être ça. Fait que oui, il y avait tout le temps de la bière cachée.
Il y en avait tout le temps un peu partout. Puis dans le temps, en plus, l'échange, tout allait bien. L'industrie du disque, l'industrie de la bière, tout allait bien. Fait qu'il y en avait en abondance tout le temps. Pour revenir à ta question, les histoires sont illimitées de bandes qui débarquent, mais je pense, entre autres, là, les gars de Billy Talent qui débarquent pour l'artiste du mois. Puis comme je disais, c'était le perfect storm parce que le band débarque, l'accueil est malade, l'équipe technique est le fun, eux autres trippent au bout parce qu'ils sont à télé.
Vous étiez notre Internet. Nos nouvelles de musique, on les ramassait là avec Mike Gauthier, avec Claude Rajotte, la musique plus spécialisée, les lancements de clips. Ouais. C'était l'endroit où les jeunes ramassaient ce qu'ils avaient le goût d'entendre, ce qu'ils avaient le goût de voir, puis ce qu'ils avaient besoin aussi. Puis les artistes en avaient besoin, les maisons de disques en avaient besoin. C'était le pit stop, c'était le messenger du temps, c'était le Twitter du temps, tu sais.
Puis Billy Talent, moi, ce qui me fait capoter, c'est que c'est le premier artiste du mois auquel j'ai assisté, puis j'étais pas animateur. Moi, quand je rentrais à Musique Plus, j'étais pas animateur, je rentrais comme stagiaire de Jonquière. Puis finalement, ben, je travaillais à Musique Plus, puis là, ils disent au staff, hey, tu sais, si vous voulez des places pour l'artiste du mois, dites-le. Puis c'est Billy Talent. Je suis comme, OK.
Oui.
C'est
je peux être là.
Un ou deux mois avant que le deuxième album sorte. Fait qu'ils font les tunes parce que l'artiste du mois va sortir avec l'album. Fait qu'ils font toutes les nouvelles tunes que personne connaît.
Mm-hmm.
Moi, j'écoute, je passe, puis je m'en vais dîner, genre, puis je les vois sans faire un soundcheck. Là, je viens de commencer, ça fait peut-être un mois que je travaille à Musique Plus. Puis je vois faire un soundcheck, puis c'est des tunes de Billy Talent que personne connaît. Je me dis, voyons. C'est ça ici. Tu sais, mettons, c'est tout ce dont je rêvais. Ouais. Effectivement, c'est ça. Puis finalement, écoute, artiste du mois qui était légendaire, le décor, c'était des ampoules qui pendaient du plafond. Puis le chanteur, un moment donné, il a pété une ampoule avec le pied de micro, puis il a pogné un choc.
Ouais.
Il a pogné un choc. Puis quand on prenait une bière après, tu sais, moi, c'est ça, dans ce temps-là, je suis pas animateur, puis tout ça, fait que tu sais, je prenais mon trou, je jasais avec le monde de Musique Plus, puis tu sais, je prenais une petite bière, puis je regardais au loin les gars de Billy Talent, puis je voyais le chanteur, sa main, elle shakait.
Encore,
il a pogné un solide choc, là.
Ouais.
C'était malade.
Puis, tu sais, le pattern était toujours pareil. T'sais, on utilise Billy Talent comme exemple là parce que j'y connaissais depuis un bout aussi. Fait que là, j'ai présenté à l'équipe. L'équipe technique à Musique Plus, tu sais, comme d'autres, aussi cool que n'importe qui tu vois en onde aussi. Tu sais, tout le monde est cool à Musique Plus. Tout le monde est le fun.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, l'ambiance est le fun. Tout se passe bien. On rentre quelques centaines de personnes dans place. L'ambiance, le monde dehors cogne des vite. Ils font le show. OK, il y a le choc électrique, il y a tout ça. Mm. Et après ces affaires-là, c'est. Tu sais, là, on vide la place, ils signent des autographes, puis on monte en haut. Ils ont la loge, depuis un bout, ils ont peut-être pris des bières dans l'après-midi, ils ont de la bouffe aussi. Et là, tu as la productrice, probablement, qui se demande bon, as-tu assez de bières en place? Sinon, envoie un cordeau aller chercher des caisses et le party se transporte sa fameuse terrasse de Musique Plus.
Oui, OK. Ça, je veux que vous nous parliez de la terrasse de Musique Plus parce que le nombre de légendes urbaines que j'ai entendues au fil des années, puis moi, j'ai jamais mis les pieds là. Ça, Musique Plus, ça n'existe plus. Là. Ouais. Je veux dire, les locaux en tant que tels, c'est plus utilisé, mais physiquement, vous aviez... C'était quoi? C'était-tu sur le toit du building?
C'était au deuxième étage.
OK.
Dans le fond, sur le deuxième étage, t'avais, mettons, l'espèce de cuisine avec un petit salon lounge là, où on a dormi une couple de fois d'ailleurs.
Mais... quand la loge était barrée, puis t'avais pas la clé, là, tu dormais dans le lounge de la cafétéria.
Ouais. Puis la terrasse, c'était juste là. C'était vraiment, tu sais, t'arrivais, puis c'était le monde allait dîner là. C'était vraiment, la terrasse, c'était un point de rassemblement. Quand il faisait beau, là, c'était malade.
C'est que t'étais tellement isolé. C'est un de mes spots que je m'ennuie le plus. T'sais, je m'ennuie peut-être les escaliers que tu voyais tout le temps en shot pour aller au deuxième, mais la terrasse, pour moi, c'est spécial. C'était isolé. T'entends tout ce qui se passe sur Sainte-Catherine, mais autour de toi, t'as des buildings plus hauts, t'as des usines, t'as des... Fait que t'as juste une genre d'une ruelle miteuse en bas avec des seringues puis un sleeping bag.
La place te crie, ici, je peux l'échapper.
Ah! Puis le nombre de personnes... Puis ça c'est... Le nombre de brosses non officielles qu'il y a eu là, parce qu'on allait voir un show, mettons, là, ça arrivait souvent. Hey. On va voir un show au Spectrum, qui était juste l'autre bord, tu sais, coin de rue, Bleury-Sainte-Catherine. Et après le show, on est comme, OK, ben, on va-tu au fouf? On va-tu ça? Ou on va-tu sa terrasse? Puis, tu sais, tous les employés, tout le monde a sa passe.
Ben oui.
Puis les boss s'en foutaient, ce qui se passe. Fait que, hey, on va-tu sa terrasse Musique Plus? Puis là, peut-être, tu demandes à du monde, tu demandes à une fille, tu demandes à un gars,
ben
tu t'es déjà vu à terrasse, toi, Musique Plus? Hein? Veux-tu une visite, toi, de Musique Plus? Traverse la rue, rentre, petite visite, va chercher des bières, check dans le fridge s'il y en a, et des fois jusqu'aux petites heures du matin, puis personne va... Tu déranges personne. C'est juste des buildings d'entreprise puis d'usines, ça monte jusqu'au ciel. T'es vraiment dans ton petit cocon là, au centre-ville de Montréal.
C'est vrai qu'il y avait personne. C'est vrai que le soir, tu sais, toutes les buildings autour où il y a des fenêtres puis tout ça, tout était fermé. Fait que là, c'était le moment de l'échapper. Puis tu sais, les parties Musique Plus, à part, mettons, l'hiver, là, tout se passait là, tout le temps. Là. Surtout que le printemps, là, je sais pas qui déneigeait la terrasse d'ailleurs. Mais
Michel Lavigueur.
Ouais, c'est Michel.
Ouais.
Parce qu'elle était déneigée très tôt dans l'année. Puis même, des fois, je te dirais peut-être 12 mois par année.
Il y a du monde qui avait besoin de savoir que cette terrasse-là était accessible en tout temps.
Exact. Oui.